À l'occasion de l'exposition « Quoi de neuf au Moyen-Âge » et de la fête de la science, France Culture installe ses studios au cœur de la Cité des sciences et de l'industrie à Paris ce jeudi. Que doit-on au Moyen-Âge? Qui dirigeait la société médiévale? Comment rapprocher science et citoyens? Suivez dès midi « Carbone 14 » de Vincent Charpentier, à 14h15 « La fabrique de l'histoire » par Emmanuel Laurentin et à 16h « La méthode scientifique » Nicolas Martin. France Culture, aujourd'hui à la Cité des sciences, entrée libre. Plus d'infos sur franceculture.fr.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Journée spéciale aujourd'hui sur France Culture, spéciale Alep, radioscopie d'une tragédie syrienne sur notre antenne, avec des matins en direct de l'Institut français à Beyrouth. Ce sera à partir de 7h, du grain à moudre aussi à 18h20 avec Hervé Gardette. Mais pour le moment, vous êtes en notre compagnie depuis le studio 158 de la Maison de la Radio à Paris. Les petits matins commencent tout doucement. Il est 6h sur France Culture. Et les premiers titres de ce jeudi 13 octobre, c'est avec vous Aurélie Kiefer, bonjour.
Bonjour Émilie, bonjour à tous. Le russe Sergueï Lavrov et l'américain John Kerry participeront samedi à une réunion sur la Syrie à Lausanne. Mais, prévient la Maison Blanche, il ne s'agit plus d'essayer de relancer la perspective d'une coopération militaire des États-Unis avec la Russie. Les ministres des Affaires étrangères de Turquie, du Qatar, de l'Arabie Saoudite et de l'Iran prendront également part aux discussions. Hier, François Hollande a saisi l'occasion d'un entretien téléphonique avec Angela Merkel et Vladimir Poutine pour rappeler au président russe l'urgence absolue d'un cessez-le-feu en Syrie. Donald Trump mis une nouvelle fois en difficulté. Le candidat républicain à la Maison-Blanche a été accusé hier de harcèlement sexuel par plusieurs femmes, accusation aussitôt démentie par l'entourage du milliardaire. Vendredi dernier, Donald Trump avait déjà dû s'excuser après la diffusion d'une vidéo datant de 2005 dans laquelle il se vantait d'un comportement relevant du harcèlement sexuel. De nouvelles violences meurtrières en Centrafrique. Des rebelles musulmans de la Séléka ont attaqué des réfugiés dans le nord du pays. Ils ont été repoussés par des casques bleus de l'ONU. Bilan, 23 morts. Fin septembre, des violences avaient poussé la MINUSCA, la mission de l'ONU, à renforcer ses positions à Kaaga, Bandoro. En France, les 7 candidats à la primaire de la droite et du centre s'apprêtent à débattre ensemble sur TF1 ce soir. Chacun devra tenter de gagner des points ou de ne pas trop en perdre dans le cadre d'Alain Juppé, favori des sondages. Hier, le maire de Bordeaux a enregistré de nouveaux soutiens, ceux de 600 élus centristes et celui de Patrick Devedjian, ancien proche de Nicolas Sarkozy. Dernière réforme judiciaire du quinquennat, le projet de loi Justice au XXIe siècle a été définitivement adopté hier par le Parlement via un ultime vote de l'Assemblée. Le texte instaure notamment le divorce par consentement mutuel sans juge. Le groupe socialiste, les radicaux de gauche et le Front de gauche ont voté pour, les républicains contre et les centristes de l'UDI se sont abstenus.
Merci Aurélie Kiefer et à tout à l'heure, 6h30 pour le journal complet de la rédaction. Compter les heures, les minutes, se réveiller plusieurs fois, se rendre compte que le temps de la nuit peine à se mouvoir. Alors peut-être peut-on l'y aider? Peut-être que le mouvement de l'éveil peut faire bouger bien des aiguilles, en tout cas celui d'un ciel noir et lourd, qui déciderait, contre toute attente, de remiser la nuit au lendemain. Il est 6h02 sur France Culture et les petits matins commencent. Notre image du jour ne peut pas se passer de texte pour l'accompagner. Ce sont les mots qui lui donnent tout son sens, toute son ampleur. La photo est toute petite, contenue sur la page d'un livre, un mur épais, vu de profil. Un enfant adossé à ce mur tente de regarder ce qu'il y a derrière, tout en essayant de rester caché. Son visage laisse apparaître le sérieux du jeu, la difficulté aussi de cacher son excitation. Grands yeux ronds, attentifs à l'environnement autour, bouche pincée. Dans ses mains, on ne le voit pas très bien, mais il tient un arc. Ça se passe dans une ancienne usine de la Spinnerei à Leipzig. Une installation invite les gens, ici des enfants, à se projeter. L'arc des futurs possibles, c'est un fagot de flèches posé à côté d'un arc en attente d'un visiteur. D'autres arcs plus petits sont à disposition donc des enfants pour les inviter, selon l'artiste CHTO, à déranger et à projeter leur futur. En naissant, nous avons été confrontés à des murs, écrit Camille de Toledo en dessous de notre image. Nous sommes entrés, enfants, dans un espace contraint, budgétairement cerné, quadrillé mentalement par une mémoire des ruines qui proscrivait de penser l'avenir qui, dans le cas où il était tout de même envisagé, tendait à le présenter comme une fin ou comme apocalypse. Ces lignes, on peut les lire dans le dernier livre de l'auteur, Les potentiels du temps, coécrit avec Alyosha Imov et Kantuta Kiros, un livre jalonné de ces images d'enfants qui courent, qui se cachent, qui se rencontrent et qui, arcs et flèches en main, projettent leur avenir. Nous partons d'un temps d'éternelle présence, d'hypnose sans lendemain. Nous partons de la nuit, de l'obscurité qui ne nous quitte plus. Peut-on lire à la première page de cette réponse d'espérance ? Ce sont donc avec des flèches qui, par leur capacité à fuser, foncer, à viser juste ou parfois à côté, là où on ne voyait pas auparavant, c'est avec elles donc que commence le jour qui se lève. Ce sont des enfants qui, de leurs mille trajectoires furieuses, selon les mots de l'auteur, sont en train de jouer une histoire avec un grand H, la nôtre, la leur, réinventer schématiquement des chemins loin de la nuit qui peuvent parfois envahir un peu trop facilement les horizons, les discours et les esprits. Et puisque nous nous fixions pour objectif de faire émerger la lumière, nous pouvons bien pendant quelques minutes encore nous attarder sur les ténèbres, surtout en compagnie de François Angelier, qui à 6h26 nous parlera d'Avenue Nationale de Yaroslav Rudis, un monologue dans la tête d'un néo-extrémiste perdu dans une démocratie qui elle-même se cherche. On n'a pas trop de mal à imaginer le contexte. Mais avant cela, il sera question d'ossements d'animaux non identifiés retrouvés dans un paysage de pluie, pas si noir le tableau puisqu'il s'agit de La Montagne Rouge, roman policier d'Olivier Truc, l'auteur qui est jusqu'à 6h25, l'invité de Toufik Hakem dans le Passo Doble des Petits Matins sur France Culture.
Passo Doble.
Passo Doble.
Jeudi, Polar.
Bonjour Olivier Truc.
Bonjour.
Quelle sorte de bruit peut-on entendre quand le jour se lève en Laponie ?
Malheureusement, pas du Passo Doble. Mais quel genre de bruit on peut entendre quand le jour se lève en Laponie ? Alors, suivant les saisons, ça peut être le craquement sur la neige, ça peut être le vent qui s'engouffre entre les bouleaux qui sont écrasés par la neige, ça peut être le bruit des vagues, par exemple, si on est sur les rives de la mer de Barents. Il y a plein de bruits comme ça.
Et quand on est dans le sud ?
Et quand on est dans le sud, alors on n'aura pas le bruit de la mer, on peut avoir l'eau qui tombe, évidemment. On peut avoir aussi cette neige, on peut avoir ces mêmes sons, mais avec une langue différente, puisqu'on ne parlera pas les mêmes langues que dans le nord de la Laponie.
Dans votre dernier roman policier, intitulé La Montagne Rouge, qui se passe une fois de plus en Laponie, c'est édité chez Métellier, comme les deux autres, vous nous donnez quelques indications sur les levées de soleil. Et par exemple, en ce 13 octobre, alors qu'à Paris, le lever du soleil est prévu à 8h07 et le coucher à 19h05, là-bas, en Laponie, là où se déroule l'action de votre polar, à Funäsdalen, c'est ça ?
Funäsdalen.
Ouais. Funäsdalen, lever du soleil, 7h48, coucher du soleil, 18h02, 10h14 d'ensoleillement. Et ça doit sans doute influer sur les caractères ou...
Tout à fait. Alors après, dans la Montagne Rouge, c'est le sud de la Laponie, c'est l'extrême sud de la Laponie. Donc on est quand même à 1500 kilomètres au sud de là où se déroule le dernier pont et le détroit du Loup. Donc on n'a pas la nuit polaire dans la Montagne Rouge comme on pourrait l'avoir dans d'autres. Mais c'est vrai que sur le côté de caractère, ça influe, puisque notamment dans cette période de l'automne dans laquelle on rentre, le jour tombe de plus en plus tôt et il fait nuit. Moi j'habite à Stockholm par exemple, c'est même monté jusqu'en Laponie, mais il fait nuit vers 2h30, 3h, et donc le corps humain il enregistre qu'il faut aller faire dodo. Donc c'est une accumulation de fatigue comme ça qui s'accumule en nous.
Vous avez des trucs, vous habitez à Stockholm depuis plus de 20 ans, vous êtes journaliste, vous êtes entre autres le correspondant du Monde, et vous êtes spécialiste des pays nordiques et baltes. Mais là, à partir de toutes les informations de vos reportages, vous vous lancez dans une carrière parallèle, celle de romancier, d'auteur de polar. Et dans votre dernier polar, je rappelle donc le titre, La Montagne Rouge, on retrouve pour la troisième fois donc cette police des rennes, qui a été donc créée en 1949 par la police norvégienne en Laponie, à cause des vols des rennes à l'époque, puisque c'était suite à la famine, suite à la guerre, quoi.
Tout à fait, exactement. C'est-à-dire que pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Laponie norvégienne est occupée par les par les Allemands, par les nazis, et lors de la retraite, sous l'avancée des soviétiques, les Allemands pratiquent la politique de la terre brûlée. Et donc, les gens, pour survivre, ils vont taper notamment dans les troupeaux de rennes, et au bout d'un moment, les Samis ont un petit peu marre, donc on crée la police des rennes.
Alors, parlons des Samis.
Alors les Samis, c'est un petit cours de géographie accéléré
et d'histoire,
tout à fait. Alors leur origine est encore un petit peu incertaine, mais aujourd'hui, on a de l'habitude souvent de donner un chiffre un petit peu à la louche. Le chiffre qui revient le plus souvent, c'est 70 000 répartis sur 4 pays, donc la Norvège principalement, c'est là où ils sont le plus nombreux, dans les 40 000, et puis la Suède à peu près 20 000, la Finlande 6-7 000, et la Russie, la péninsule de Kola. Ils sont à peu près 2000. Donc autant il y a des passages pas mal entre les trois pays nordiques, mais par contre c'est très fermé avec la Russie. Et les Samis, Français, quand on aborde quand on parle des Samis, on imagine les aurores boréales, les rennes, le peuple nomade, tout ça. Les Samis ne sont plus d'abord un peuple nomade depuis une bonne cinquantaine d'années, depuis l'arrivée du scooter des neiges qui a transformé radicalement leur quotidien. Et ensuite, il y a à peine environ 10% des Samis qui vivent de l'élevage du renne, c'est-à-dire que les 90% restants sont noyés dans la population, dans les populations nordiques, invisibles, je dirais même, c'est-à-dire qu'ils vont habiter dans les grandes villes, à Oslo, à Stockholm, ils vont avoir les métiers de n'importe qui, comme en France ou comme le reste de la Suède. C'est leur quotidien, et c'est d'ailleurs un des problèmes, je dirais, pour les Samis, puisque on assimile la culture Sami à la culture du renne, à la culture de l'élevage du renne. Donc il y a un problème d'identité qui se joue là, important, à savoir est-ce que si on n'est pas dans l'élevage de renne, est-ce qu'on est un vrai Sami?
Et la réponse pour les Samis?
Elle est compliquée. Moi, j'ai pas une réponse définitive là-dessus, loin de là, parce que c'est une question d'ailleurs qui fait beaucoup débat au sein des communautés samis, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a beaucoup d'enjeux derrière cette question-là, en fait, qui est une question assez essentielle, parce que si on considère que la culture sami c'est le renne, étant donné que l'élevage de renne tel qu'on le connaît aujourd'hui encore peut être amené à disparaître, peut-être dans quelques décennies, à cause des pressions industrielles, économiques et du réchauffement climatique, si cet élevage de rennes disparaît, est-ce que ça veut dire que la culture Sami disparaît? Donc, et si c'est ça, est-ce qu'elle doit s'exprimer autrement et comment? Donc, ça fait vraiment. Moi, je suis un peu toutes ces questions-là à travers la presse Sami, à travers les gens que je connais, à travers la Sami que je connais. Et il n'y a pas de. Rien n'est tranché, c'est en discussion et ils se battent pour essayer de trouver des solutions.
C'est quoi une culture Sami? C'est quoi un territoire Sami? C'est au centre de votre polar, Olivier Truc?
Oui, mais c'est encore une question qui prête à discussion. En gros, là encore, à la louche, j'allais dire, le territoire Sami, c'est 400 000 km², donc c'est immense. Hein, la France est 550 000 km², donc c'est un territoire immense qui s'étale en forme de banane un peu entre le centre de la Suède et la péninsule de Kola, côté russe, comme ça. Et avec aux marges de ce territoire, notamment là où se déroule l'action de la Montagne Rouge, ce sont des territoires contestés qui ne sont pas considérés par les Suédois notamment, comme des territoires samis à l'origine. Donc ce sont des territoires de conflit, ce sont des terres, les marges de la Laponie sont des terres de conflit. Et c'est un petit peu ça c'est comme ça que je suis entré dans l'histoire des Samis et dans l'actualité des Samis il y a une vingtaine d'années, c'est-à-dire au moment où j'étais arrivé en Suède. C'est par le biais d'un procès, justement, qui opposait un clan d'éleveurs samis à des paysans et des forestiers, sur justement cette question fondamentale qui est à qui était là le premier, à qui appartient la terre et qui était là le premier. Donc et ça, on trouve ces questions-là dans toutes les terres qui sont sur le pourtour du territoire sami, qui sont contestées. Et voilà. Et en fait, avec la Montagne Rouge, finalement, je reviens à ma première découverte du monde sami, qui était une zone de conflit.
Vaste paysage, désolé, sous une pluie torrentielle, c'est ainsi qu'on aborde ce territoire, et avec un meurtre.
Avec un squelette. Avec un squelette. Et donc la question évidemment qu'on se pose tout de suite, c'est après tout on est dans un polar. C'est qui a tué le est-ce que c'est meurtre ou pas. Donc il va falloir identifier ce cadavre. Donc il va falloir pour cela, c'est la police des Rennes intervient de fait. Clément et Nina rentrent tout de suite au contact des éleveurs qui vont trouver ces bouts d'ossements, parce qu'on retrouve pas le squelette complet, mais ils vont devoir donc enquêter d'abord pour savoir disparition, meurtre, etc. Et puis petit à petit, ils vont devoir surtout au fil de l'enquête ils vont être attrapés en fait dans une autre logique qui est celle de parce qu'en parallèle de ce début d'histoire se tient un procès à la Cour suprême de Stockholm. Où l'enjeu justement est cet enjeu de terre, cet enjeu de propriété ou non et d'appartenance du territoire. Donc l'identification de ce squelette va prendre du coup une importance énorme pour l'issue de ce procès.
Ah oui, et où les archéologues, pour une fois, n'ont pas le beau rôle dans votre roman. Alors,
c'est ça, et c'est ça qui m'a fasciné, je dois dire, parce que quand j'ai, donc, comme je disais, voilà, ça repose en partie sur des reportages que j'ai pu faire au fil des ans, et ce qui m'a toujours fasciné dans ces procès-là, ces procès de droit à la terre, c'est que c'est pas, et qui font comprendre que c'est pas des procès comme les autres, c'est que chaque partie qui s'opposait au tribunal venait avec son archéologue tenant par la main, qui venait dire oui mais là c'est à nous, c'est parce qu'on a retrouvé un bout d'ossement qui montre que, enfin des situations absurdes où il faut aller chercher des traces vieilles de plusieurs milliers d'années peut-être, au moins de plusieurs siècles, pour prouver qu'on a le droit finalement de vivre là aujourd'hui en 2016, en 2015, puisque ces histoires-là de procès elles durent toujours aujourd'hui.
Est-ce que tout ça, c'est sur fond de racisme, Olivier Truc?
Complètement. Et c'est ça qui donne un écho très particulier à ces procès, puisque ces procès en tant que tels, ces procès de droit à la terre, on en trouve partout sur la planète. On en trouve en France aussi, dans les Pyrénées, n'importe où. Bon, entre éleveurs et bergers et cultivateurs, entre éleveurs et cultivateurs, c'est des procès assez communs finalement. Mais là, il y a une dimension particulière qui est que les Samis, c'est le dernier peuple aborigène d'Europe. En principe avec des droits spécifiques liés à ce statut. Or, ces droits spécifiques sont souvent bafoués, ne sont pas respectés. Et quand ça déborde dans le discours public, dans la presse, dans les médias, sur Internet, tout ça, ça prend une tournure de fait discriminatoire. Il y a beaucoup de sales mots qui volent bas. Il y a du racisme, il y a la discrimination. Et puis, il y a plein de vieilles histoires qui ressortent.
Et ça, c'est nouveau, c'est un phénomène plutôt nouveau dans une Suède d'aujourd'hui, ou ça a toujours existé?
Ça n'a pas toujours existé sous cette forme-là. C'est-à-dire que il fut un temps où les Samis et les Suédois arrivaient à vivre ensemble tout simplement parce qu'ils avaient besoin les uns des autres. C'était l'époque où il n'y avait pas toutes les infrastructures routières, les communications, où on dépendait les uns des autres simplement pour vivre. Et c'était l'époque aussi où les paysans suédois, par exemple, avaient le droit d'avoir des rennes. Dans ce cas, ils prêtaient leurs rennes, ils confiaient leurs rennes aux éleveurs samis pour aller sur les pâturages d'été dans les montagnes. En échange, les clans samis confiaient leurs vieux aux paysans parce qu'ils ne pouvaient plus les emmener. Et c'était un marché, ça fonctionnait. Ça n'empêchait pas nécessairement les conflits, mais en tout cas, on se connaissait, on se parlait.
Et on cohabitait.
Aujourd'hui, et ça c'est le fruit d'une politique qui a été établie il y a une bonne centaine d'années, qui est le fruit d'une politique basée sur l'eugénisme, mais dont on paye encore le prix aujourd'hui. On a finalement monté ces deux populations les unes contre les autres pour des histoires de droit à la terre, de propriété. Et aujourd'hui, ça se paye. Et les Suédois, les Scandinaves en général, craignent depuis la naissance de la conscientisation politique des Samis à partir des années 1960-70, comme sur le reste de la planète où les peuples aborigènes se politisent, ils craignent que les Samis réclament finalement un État, et c'est-à-dire que eux soient expulsés d'un État Sami totalement hypothétique, parce que aucun politicien Sami sérieux ne réclame une nation Sami. Mais dans le fantasme un petit peu de beaucoup de de gens, de non-samis qui habitent dans le Grand Nord, il y a cette crainte absolue qu'ils vont être foutus dehors. Et du coup, voilà, ça prend des tournures racistes aussi.
Est-ce que cette crainte suédoise est partagée par les Finlandais ou les Russes, par exemple? Parce que le territoire sami s'étend.
Oui, il s'étend beaucoup. Alors, côté russe, c'est différent parce que la notion de corps politique sami a été écrasé par à l'époque soviétique. Donc ils ont été regroupés, ils ont été un peu repoussés de leurs terres traditionnelles, ils ont été mis dans des villes, tout ça. Donc c'est pas du tout pareil. En revanche, pour la Norvège qui est là où les samis sont le plus organisés, sont le plus puissants aussi, puisque s'il y a des parlements samis en Norvège, en Suède et en Finlande, c'est non seulement en Norvège que les Samis sont le plus nombreux, mais c'est aussi là où ils sont le plus concentrés en Laponie. Et c'est là où ils ont le plus de visibilité. Il y a des villages Samis vraiment identifiés en tant que tels en Norvège, ce qui n'est pas le cas côté suédois. Donc le côté norvégien aussi, la différence, c'est que la Norvège est le seul de ces trois pays à avoir ratifié la convention de l'ONU sur les populations aborigènes, la fameuse convention ILO 169, qui donne des droits très particuliers aux Samis. Les Suédois ont refusé de le faire jusqu'à présent, notamment sous la pression du lobby des forestiers et des paysans, justement par crainte qu'ils soient dépossédés, que ces lobbies économiques très puissants qui ont des relais au Parlement soient dépossédés de leur richesse.
Alors on revient à l'intrigue de votre polar, Olivier Truc, La Montagne Rouge. Alors que les éleveurs procèdent à l'abattage annuel de leurs rennes, on retrouve dans la boue des ossements humains, et c'est le début donc de l'enquête pour cette brigade spéciale, cette police spéciale. Alors comment, avec tout ce que vous avez dit, ces policiers qui sont samis vont enquêter?
Alors l'enquête, en fait, il faut comprendre que la police des rennes, c'est une police qui intervient rarement en cas de flagrant délit, vu les distances immenses qui sont de la Laponie, vu leur méthode d'intervention, c'est en scooter des neiges. Là on est à l'automne, donc ils interviennent souvent en quad et circuler en quad en Laponie. Pour l'avoir fait avec eux, en patrouillant avec eux, je peux vous dire, c'est très compliqué, on se bousille le dos, les bras et tout ça. Mais donc, on progresse lentement. L'avantage de la police des rennes, traditionnellement, c'est qu'ils connaissent bien le milieu dans lequel ils évoluent. Ils connaissent les éleveurs et tout ça. Ce qui n'est pas le cas dans la Montagne Rouge, puisque autant dans le dernier Lapon et le Détroit du Loup, ils avaient un avantage. Clément, notamment, avait un avantage parce qu'il vient de là-haut, il vient de Laponie norvégienne par son père. Il connaissait beaucoup les éleveurs. Là, c'est ce qui est nouveau pour lui dans la Montagne Rouge, c'est qu'il est placé dans le sud de la Laponie, dans une région où il n'a pas de repère. Donc il est à égalité avec Nina. Nina, qui elle vient du sud de la Norvège, débarquée dans les deux premiers livres en territoire inconnu, le Grand Nord qu'elle connaissait pas, les Samis qu'elle connaissait pas. Et là, ils se retrouvent de fait à égalité. Ils doivent partir de zéro pour découvrir un nouveau monde d'éleveurs, peut-être des nouvelles méthodes d'élevage aussi. Et donc, il faut partir un petit peu à la pêche, c'est-à-dire à la chasse, aller au renseignement tout simplement. En fait, la police des rennes, c'est la police de proximité sur des étendues immenses. Donc, ils vont au contact avec les gens, ils vont se frotter aux éleveurs, et petit à petit, ils vont se frotter aussi pas seulement aux éleveurs, parce qu'il va y avoir des tas d'autres interférences dans cette histoire. Puisqu'ils vont à la recherche de preuves, ils vont voir que beaucoup de preuves disparaissent. Mais dans la Montagne Rouge, après, c'est vrai que y a des personnages comme Justina, cette vieille femme qui se promène partout avec ses cannes nordiques, qui organise des parties de Bill Bingo, c'est-à-dire des bingos qui s'organisent des parties de loto organisées sur des grands parkings, tout ça avec sa bande de copines. Elle est inspirée de son histoire, elle est inspirée par une personne que j'ai rencontrée il y a une quinzaine d'années en reportage. Bertil, ce vieil antiquaire aussi, son histoire à lui, elle est inspirée d'un personnage que j'ai rencontré il y a pas loin d'une vingtaine d'années déjà, toujours en Suède, pour un documentaire auquel je participais à l'époque pour Arte. Donc, j'en dirai pas plus sur eux, mais il y a plein de personnages comme ça. Et même les personnages d'archéologues, anthropologues, les deux que je mets en scène essentiellement.
Et qui sont très obscurs.
Qui sont très obscurs. Et là, il faut que je demande pardon à l'avance aux formidables scientifiques que j'ai pu rencontrer pour préparer ce livre, notamment au Musée de l'Homme, qui m'ont beaucoup aidé. Donc ils m'ont beaucoup aidé. Ils ont été très généreux avec moi. Mais alors, évidemment, les personnages sont pas du tout inspirés de ceux que j'ai rencontrés au Musée de l'Homme ou ailleurs en Suède, d'ailleurs. Mais c'est vrai que je m'imprègne beaucoup de personnages rencontrés.
Et j'ai l'impression que vous avez été aussi imprégné par les polars suédois. Alors, c'est parce que vous vivez en Suède que vous avez ces personnages ambigus, très obscurs, ou c'est aussi cette littérature, ce genre de polar typiquement suédois qui vous ont inspiré, Olivier Truc?
Ben, en fait, j'avoue que j'ai lu très peu de polar suédois. Alors, donc je sais pas si c'est le fait de vivre en Suède qui fait que naturellement, quelque part, j'adopte une certaine écriture. Moi, j'ai lu très peu de polar suédois. J'ai baigné, en revanche. Depuis mon arrivée en Suède, j'ai pas lu les Mankell, par exemple, et tout ça, et les inspecteurs Beck de Cheval et Valeux, qui sont les pères et mères du polar suédois. Mais quand je suis arrivé en Suède il y a une vingtaine d'années, ces séries-là venaient d'être adaptées à la télévision suédoise et tournées en boucle à la télé suédoise. Donc j'ai en partie quand même appris le suédois dans ces séries-là. Donc ça a dû quand même quelque part m'influencer un petit peu.
La dernière enquête de la police des Rennes, c'est dans la Montagne Rouge, édité par Métellier, comme d'habitude. Merci Olivier Truc d'être venu nous parler de votre dernier polar, La Montagne Rouge. Merci beaucoup.
Merci.
Dans un instant, la suite des Petits Matins.
Entretien réalisé par Thomas Dutheur, que vous pouvez réécouter, podcaster sur notre site franceculture.fr à la page des Petits Matins et de La Montagne Rouge. On va vers des pensées noires. Il est 6h26, l'heure de retrouver François Angelier.
Les émois, François Angelier.
Vous ne m'en voulez pas trop pour cette transition.
Oh, mais non, Émilie, je vous en veux pas.
Vous voilà. Nous parlez aujourd'hui du roman Avenue Nationale de Yaroslav Rudis.
Absolument. Alors, on va passer de la Montagne Rouge à la Montagne Blanche, site d'un combat fameux dans l'histoire de la Tchéquie, avec ce roman de Yaroslav Rudis, Avenue Nationale, qui paraît aux éditions Mirobol, une excellente maison qui nous a révélé d'ailleurs beaucoup d'auteurs très percutants, dont celui-là, avec toujours des couvertures sublimes. Et là, notamment, la couverture dit tout. C'est un bouclier antique, c'est un bouclier de guerrier antique, germain, gaulois, avec dessus, comme dessiné avec du goudron, eh bien, le nom de l'auteur, Yaroslav Rudis, et Avenue Nationale, le titre du livre. Alors, Yaroslav Rudis, c'est un homme qu'on a découvert en 2012 avec La fin des punks à Helsinki, paru chez Books. C'est un dramaturge, c'est un auteur de bande dessinée, et c'est quelqu'un qui a été très marqué par, je dirais, l'esthétique, la vision, et même la philosophie politique des punks. Et on retrouve tout à fait cette vision dans Avenue Nationale, puisque c'est un roman, non. C'est un monologue théâtral, non. C'est une sorte de tag, une sorte de grand tag langagier et littéraire qui se déploie pendant près de 200 pages et qui est la cogitation, le marmonnement, le grommellement intérieur et mental d'un homme qui s'appelle, ou qu'on surnomme, Van Damme. Pourquoi Van Damme? Eh ben, c'est l'acteur Jean-Claude Van Damme, qui est pour lui véritablement une sorte d'icône, de symbole, à la fois de domination, de force physique, de capacité à résoudre les problèmes par la violence. Et c'est l'obsession de Van Damme. Van Damme, il est peintre en bâtiment. Il a été totalement marqué par le suicide de son père, qui s'est jeté depuis un 9e étage sur une petite voiture familiale Skoda et qui a cabossé le toit. Et après, la famille continue à utiliser la voiture et en voyant le cabossage du toit, continue à penser au père. Et Van Damme est un homme dont la vie se déroule essentiellement dans un bar qu'on appelle le Cerverka. Il est amoureux, il sort avec la serveuse Luca et il a une spécialité, c'est-à-dire qu'il guette l'arrivée dans le bar de ceux qui se la pètent. Et ceux qui se la pètent, eh bien, il les cogne.
Et un tout peu
ça,
comme vous.
Voilà, c'est tout à fait mon style. Et tout ça, si vous voulez, ça a l'air un peu une sorte de pittoresque punk. Ben pas du tout, puisque Yaroslav Rudis nous le raconte sous la forme d'une sorte de grande débit de langage extrêmement violent, extrêmement puissant, un véritable tourbillon de mots. L'homme est obsédé par le, ce qu'il appelle le trésor de ses points nus, par une espèce de philosophie violente de la guerre, une fascination pour les régimes totalitaires, pour la Germanie, pour la romanité. Et donc c'est un petit peu à l'heure justement du populisme en Hongrie et tout cela. C'est une excellente manière d'écouter par le biais de la littérature ce qu'est un petit peu la violence politique, la violence sociale et l'enlisement psychologique peut-être de toute cette région de l'Europe. Jaroslav Rudis, donc Avenue Nationale, aux éditions Mirobol.
Un roman donc très ancré dans son temps. Et,
tout à fait.
Et demain, on se détendra un peu avec de la comédie italienne, François.
Ah oui, demain, on change, on passe à Sophia Loren. C'est beaucoup plus décontracté.
J'ai hâte.
Quoique.
6h29 sur France Culture. Les petits matins se poursuivent avec, dans un instant, le journal d'Aurélie Kiefer, suivi à 6h40 du journal des idées de Jacques Munier. Bonjour Jacques.
Bonjour Émilie.
Un journal sur François Hollande, un people comme les autres.
Oui, oui, le fameux livre de Gérard Davet dont tout le monde parle, Gérard Davet, Fabrice Lhomme, les secrets du quinquennat.
À 6h45, les enjeux internationaux se penchent sur les relations entre Paris et Moscou, autour notamment du dossier syrien, ce qui nous permettra de nous acheminer tout doucement vers des matins spéciaux autour de la tragédie syrienne, notamment de la situation dramatique à Alep. Guillaume Erner et ses invités seront en direct de l'Institut français de Beyrouth de 7h à 9h.
Chaque jour sur France Culture, de 12h à 13h30, La Grande Table par Olivia Gesbert.
Tous les midis, écrivains, cinéastes, plasticiens, musiciens, ils font la vie culturelle et nous livrent un regard subjectif sur le monde qui nous entoure. À partir de 12h55, on va philosopher, analyser, théoriser. C'est au tour de l'actualité des idées de se décliner à partir d'un essai ou d'une tribune et surtout d'un invité.
La Grande Table, le magazine de la culture et des idées, Olivia Gesbert, du lundi au vendredi, dès midi. À écouter aussi sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, bon réveil si vous nous rejoignez, il est 6h30. Le journal, Aurélie Kiefer, bonjour.
Bonjour à tous. Un président ne devrait pas dire ça. Le livre de confidences de François Hollande qui paraît aujourd'hui déconcerte, agace ou indigne, c'est selon. Et il scandalise les magistrats qualifiés de lâches, selon les propos rapportés par les journalistes du Monde, Fabrice Lhomme et Gérard Davet. François Hollande aurait notamment dit « Tous ces procureurs, tous ces hauts magistrats, on se planque, on joue les vertueux, on n'aime pas le politique ». Virginie Duval, présidente de l'Union syndicale des magistrats, se dit consternée.
L'USM est consterné de tels propos, d'autant plus que il y a un double langage qui est difficilement compréhensible avec les propos qu'a tenus Monsieur Hollande la semaine dernière à notre congrès, où il rappelait sa confiance en la justice et le fait que les magistrats et les décisions ne devaient pas être critiquées. Je ne comprends pas de tels propos, surtout stigmatisant l'ensemble d'une profession, puisque c'est l'institution judiciaire qui est taxée, entre guillemets, de lâcheté. Donc il y a un réel problème dans de tels propos.
Et vous avez été surprise, enfin l'USM a été surpris?
Oui, parce que ça ne correspond pas à ce qu'il avait voulu laisser penser depuis le début du quinquennat. Depuis le début du quinquennat, il n'y avait pas de critique des décisions de justice, pas de critique de magistrats non plus. Donc le fait que maintenant on apprenne que l'ensemble de l'institution judiciaire serait lâche pour M. Hollande, oui, c'est un gros problème et c'est très étonnant.
Et c'est quoi le sentiment aujourd'hui? C'est de la déception surtout ou de la colère?
Il y a de la déception, de la colère, de la consternation. Il y a vraiment une incompréhension totale, surtout alors que la semaine dernière, il nous disait totalement l'inverse. Et je crois qu'il est important que ces propos soient retirés, soient infirmés. Là, ça met vraiment à mal tous ces discours depuis 5 ans. Et puis, on se demande s'il n'est pas venu à notre congrès pour déminer par avance notre réaction aujourd'hui.
Virginie Duval répondait à Jules de Kies. Hier soir, le premier président et le procureur général près la Cour de cassation ont été reçus à l'Élysée. Ils devraient revenir sur cet entretien devant la presse ce matin. Première épreuve du feu pour les candidats à la primaire de la droite et du centre. Les 7 candidats se retrouvent pour un débat télévisé sur TF1. L'ancien Premier ministre Alain Juppé l'aborde en favori face à l'ex-président Nicolas Sarkozy. L'enquête sur l'agression au cocktail Molotov de policiers de l'Essonne se poursuit. Dans un communiqué hier soir, le procureur d'Evry a donné des nouvelles des 2 principales victimes de l'attaque. La jeune policière d'Athis Mons, grièvement brûlée aux mains et au visage, devrait pouvoir quitter l'hôpital en fin de semaine. En revanche, son collègue de Savigny-sur-Orge est toujours en coma artificiel, grièvement brûlé aux mains et aux poumons. Le procureur d'Evry a également donné des précisions sur l'avancée de l'enquête, Stéphane Père.
Vidéosurveillance, témoignages, traces matérielles, les enquêteurs travaillent sur un groupe d'agresseurs de 15 à 20 jeunes. Le film de la caméra qui a capturé les faits, placé au niveau du carrefour du Fournil, est exploité. Il aurait déjà permis d'identifier des personnes dans les instants qui ont précédé et suivi l'agression. En plus de cette vidéo, les enquêteurs ont saisi des objets, 33 au total. Ils ont isolé plusieurs ADN à partir de la salive ou de la transpiration des agresseurs. ADN sur un mégot, sur des débris de bouteilles, sur des pierres, sur un gant également retrouvé à proximité de la voiture de patrouille. Une source policière contactée par France Info explique qu'aucun de ces ADN déjà isolés par les enquêteurs ne figure au FNAEG, le fichier des empreintes génétiques du ministère de l'Intérieur. Trois des quatre policiers attaqués samedi ont déjà témoigné. Ils disent que l'attaque était préméditée. Les auteurs sont arrivés sur les lieux avec des cocktails Molotov dont la mèche était déjà allumée. Depuis dimanche, près de 90 policiers ont été mobilisés pour contacter les résidents de près de 750 appartements dans les environs. Des témoignages intéressants sont déjà remontés. La police compte également sur le numéro vert dédié à l'enquête, le 08 05 20 04 48.
Il est 6h34 sur France Culture. La suite du journal avec vous, Aurélie Kiefer. Je vais vous laisser la parole avec la poursuite de la bataille d'Alep en Syrie.
Oui, Émilie, cela fait maintenant 3 semaines que Damas et Moscou ont lancé une offensive aérienne massive contre les quartiers rebelles d'Alep. Les deux alliés affirment lutter contre les terroristes et Vladimir Poutine a accusé les combattants qui contrôlent la zone orientale d'Alep d'utiliser les civils comme boucliers humains. De leur côté, les Nations Unies estiment que le régime syrien s'est rendu responsable de crimes de guerre à Alep où vivent plus de 250 000 victimes. Les précisions de Laure Stéphane depuis Beyrouth.
Plus de 350 morts, dont la plupart sont des civils, plus d'un millier de blessés. C'est le bilan humain de 3 semaines d'offensive aérienne sans relâche contre l'est d'Alep. Un bilan qui s'est alourdi hier après d'intenses frappes qui ont notamment visé un marché des quartiers rebelles. De cette zone où tout manque, nourriture comme services médicaux, personne ne peut être évacué. Les faubourgs insurgés sont assiégés. Les forces pro-régime veulent reprendre le contrôle de la totalité d'Alep, l'ancienne capitale économique divisée en deux depuis 2012. Pour cela, elles multiplient les frappes. Elles ont aussi recours, selon les Nations Unies, à des armes d'une puissance inédite à Alep, comme les bombes bunkers capables de perforer le sol. Damas et son allié russe frappent des infrastructures civiles comme des hôpitaux et pour les militants de l'opposition, ces destructions sont délibérées. Les combattants pro-Assad, c'est-à-dire un mélange de soldats et de miliciens pro-iraniens, tentent d'avancer au sol. Ils ont réalisé des gains, mais ils restent contenus aux périphéries de la zone rebelle. Dans celle-ci, des milliers de combattants sont déployés, dont des djihadistes de l'ex-front Nosra. Ils sont, selon diverses estimations, peu nombreux mais puissants. Pour pro et anti-régime, Alep est un enjeu symbolique et militaire. C'est la seconde ville du pays. C'est l'un des derniers lieux stratégiques où l'opposition armée a une présence. Chaque camp est convaincu que c'est là que se joue le cours de la guerre syrienne.
La Syrie et le sort de la ville d'Alep, c'est le thème des matins de France Culture. Guillaume Hernard et ses invités seront en direct de Beyrouth. Ils quittent l'enfer de Daesh juste avant l'offensive de Mossoul. Alors que les préparatifs militaires s'intensifient en vue de la reconquête de la capitale irakienne de l'État islamique, des habitants fuient la ville. Jérôme Jadot a rencontré Ahmed, 24 ans, dans le camp de déplacés de Dibaga, à 80 km au sud-est de Mossoul.
Ses habits poussiéreux, le jeune homme fluet ne les a pas apportés de Mossoul. Il a fui il y a 10 jours avec pour seul bagage ses cartes d'identité d'étudiant et un peu d'argent, scotché dans un sac étanche autour de sa taille. Ahmed a fui à la nage en traversant le Tigre en pleine nuit.
J'ai nagé sans faire de bruit pendant une dizaine de minutes. Quand je suis arrivé de l'autre côté, j'ai marché pendant 5 heures pour rejoindre les Peshmerga. Et si les hommes de Daesh m'avaient arrêté, j'étais mort.
Ahmed a aussi eu la chance de ne pas poser le pied sur une mine, mais il ne supportait plus de voir ses études de pétrochimie au point mort, remplacé par 3 séances hebdomadaires de lavage de cerveau.
Il y a des conférences obligatoires à la mosquée. Si tu n'y vas pas, ils te jettent en prison. Ou alors tu dois payer une amende. Tu es fouetté.
Harcèlement qui s'est intensifié à l'approche de l'attaque de la coalition, dit Ahmed, même si certains djihadistes ont aussi fui. Ceux qui restent préparent les lignes de défense, tranchées et blocs de béton sur les routes. Les habitants tentent, eux, de faire quelques provisions en attendant l'offensive.
On entend dans les médias que c'est pour aujourd'hui, que c'est pour demain, mais ça reste très théorique. On veut qu'ils accélèrent. La situation de nos familles là-bas est vraiment misérable.
Mais retourner à Mossoul n'est plus la priorité d'Ahmed. Il veut reprendre ses études en Turquie ou aux États-Unis. Pour y joindre ses contacts, il doit d'abord retrouver un téléphone portable. Le sien n'a pas franchi le Tigre.
Le Syrien soupçonné de préparer un attentat et arrêté lundi en Allemagne s'est suicidé hier. Il se trouvait dans un centre de détention
tension à Leipzig. Selon l'avocat du jeune homme, le risque suicidaire de son client était connu des responsables de la prison. Il était en grève de la faim depuis son incarcération. Le temps de ce jeudi, beaucoup de nuages et de la pluie. Les Bouches-du-Rhône, l'Hérault et l'Aude sont placés en vigilance orange en raison des risques d'orage ou d'inondation. Il fera cet après-midi 9 degrés à Lyon, 10 à Paris comme à Rennes, jusqu'à 21 à Biarritz. 6h38, le prochain journal sur France Culture, ce sera à 7h avec Catherine Dutu. Tout de suite, les petits matins, Émilie Chaudet, avec d'abord un tour d'horizon de la presse.
Merci Aurélie. La presse, aujourd'hui coincée entre une échéance présentée comme décisive à droite et des révélations présentées comme gênantes à gauche. Le grand rendez-vous de la droite et du centre, titre Le Figaro, selon lequel la tonalité des échanges entre les 7 candidats à la primaire est l'une des principales inconnues. Autre inconnue de taille et plus décisive dans Les Échos, qui titre sur le match des programmes. Avec en effet les impôts et l'immigration qui seront en première ligne des sujets abordés, le chômage et la sécurité aussi. Un exercice de visibilité pour les petits candidats, note le journal, un exercice périlleux pour les autres. Alain Juppé par exemple, en tête des sondages, qui du coup ce soir n'aura pas le droit au faux pas. Autre candidat qui n'aura pas le droit au faux pas ces prochaines semaines, un candidat qui ne dit pas son nom, François Hollande, dont la silhouette de profil et ce titre s'affichent sur le journal Libération. Il ira sauf si, point de suspension. Ainsi, le journal énumère les 5 chausse-trappes, selon ses termes, à éviter pour que le président puisse prétendre à sa réélection. Parmi eux, le chantier de Notre-Dame-des-Landes à reporter, la menace Juppé, encore lui en face, et plus les candidats de la gauche hors PS, les dossiers du camp de Calais, l'inversion de la courbe du chômage, le docteur Hollande et Mister Candidat, titre l'opinion qui revient sur certains passages du livre de Fabrice Lhomme et Gérard Davet. Un président ne devrait pas dire ça, et sur l'interview de ce président dans l'Obs. Il y a deux François Hollande ces jours-ci, écrit Nathalie Ségone, le locataire de l'Élysée qui se plaint de la dureté de la tâche, et le leader de gauche qui se dit prêt à être de nouveau candidat. De son côté, et pour finir, la Croix titre sur son édito en une sur un pays en attente, confidences intimes du président de la République en exercice, confession télévisuelle des candidats à la présidentielle dans un lieu cosy. Ce genre de scène va-t-il vraiment renouveler l'intérêt des Français pour la politique, se demande l'éditorialiste Dominique Greiner, qui ajoute, je le cite encore, « On n'attend pas que des responsables soient sympathiques dans leur vie privée, on attend d'eux qu'ils soient préoccupés par les défis que la société française doit affronter. » Et c'est justement de ces paradoxes de la personnalité et des décalages que ça implique avec les attentes des électeurs dont vous allez nous parler, Jacques Munier, parce qu'il est déjà 6h40 sur France Culture.
Le journal des idées, Jacques Munier.
Et oui, avec ce livre dont tout le monde parle et que je viens de citer, un président ne devrait pas dire ça. François Hollande nous montre qu'il est avant tout non pas un président normal, mais un people normal, Jacques Munier.
Oui, le livre de Gérard Davet, vous l'avez dit, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, Émilie, qui révèle, je cite le sous-titre, « Les secrets d'un quinquennat ». Eh bien, il fait débat jusque dans l'hémicycle ou à la cour de cassation. Les journalistes du Monde ont recueilli les confidences du chef de l'État tout au long de son mandat et le résultat paraît aujourd'hui en guise de testament politique et mondain. Est-ce l'époque qui veut ça, à l'heure où les politiques déballent leurs affects sur canapé? François Hollande se livre en mêlant son intimité et la République d'une présidence normale, soit éminemment pipolisable. Pour lui, le bonheur n'est ni dans le pré, ni dans les jardins de l'Élysée, mais dans sa vie personnelle, ce n'est que du plus. Je n'ose pas dire, je cite, « je n'ose pas dire que du bonheur, mais que du plus », confie-t-il donc avant de lâcher rétrospectivement ce mot pour l'histoire. « Ma vie, elle, a déjà été réussie ». Le président a baissé la garde, mais dans Le Figaro, Vincent Trémollet est à l'affût. Vous chercherez désespérément dans ces 700 pages le lexique de l'indignation commune, France moisie, idérance, discours nauséabond. L'éloge du vivre ensemble est fait sans conviction. La France de demain, je cite, sera ce qu'on en fera. C'est quand même mieux qu'il y ait plus de femmes dans la vie publique, c'est quand même mieux qu'il y ait plus de diversité dans la société, c'est quand même mieux qu'il y ait des idées d'égalité, de justice qui passent. Conclusion provisoire et paradoxale du lecteur des pages Champs Libres. L'impression laissée par le chef de l'État est celle d'une vision aboutie du malaise culturel français, d'une sorte de café du commerce, de l'identité malheureuse. Moins vigilant qu'à l'habitude, lorsqu'il dénonce ceux qui jouent sur les peurs et stigmatisent, le président confesse ses doutes. sur l'intégration. Il y a à la fois des choses qui marchent très bien et l'accumulation de bombes potentielles liées à une immigration qui continue. Sur l'équipe de France de foot, elle est en proie à une communautarisation, une segmentation, une ethnicisation. Sur le seuil de tolérance, je pense qu'il y a trop d'arrivées d'immigration qui ne devraient pas être là. D'où le commentaire désabusé de Vincent Trémollet. Dans le conte d'Andersen, c'est la foule qui réalise que le roi est nu. Ici, c'est le roi lui-même qu'il proclame.
Et on continue avec la littérature. Loin des secrets d'alcôve élyséenne, il existe une toute autre littérature, Jacques, en une de l'humanité.
Mais oui, alors passons à autre chose, on va dire. La littérature populaire, par exemple, Jack London est entré dans la Pléiade et l'humanité célèbre l'événement. « J'ai vécu partout », s'exclamait Rimbaud dans Une saison en enfer. L'auteur de Croc-Blanc a enchaîné les épisodes de sa vie à un rythme haletant. Bête de somme en usine à 14 ans, pilleur d'huîtres dans la baie de San Francisco à 15, trimardeur et taulard à 18, jeune socialiste à Auckland à 19, chercheur d'or à 21, Kipling, américain à 24, connu comme auteur dans le monde entier, champion des causes sociales, journaliste et correspondant de guerre à 28, voyageur et aventurier sans frontières à 31, éleveur de bétail, primé et propriétaire d'une ferme expérimentale à 35, légende du self-made man millionnaire à sa mort à 40 ans. Et tout au long de cette odyssée, 1000 mots par jour jetés sur le papier. Résultat, une œuvre romanesque qui déborde deux volumes serrés en papier bible dans la Pléiade. L'amour de la vie, un recueil de nouvelles de 1905, est le dernier texte que Lénine se soit fait lire quelques jours avant sa mort. Et puis dans leur chronique sur la langue, Francis Combes et Patricia Latour s'en prennent quant à eux à ce qu'ils ont baptisé le « franglish ». Punchline et pitch, des mots qu'Alain Borer désignait comme des mots silures, des prédateurs qui engloutissent toute une série d'autres mots.
Michael Edwards, notre premier académicien britannique, professeur au Collège de France et poète bilingue, propose dans son dernier livre une belle méditation sur le génie de la langue française, justement.
Oui, en renouant d'ailleurs avec le genre du dialogue, en l'occurrence intérieur, il confronte sa conscience anglaise et sa voix française et il éclaire l'histoire et l'avenir possible de notre langue dans le voisinage de l'anglais désormais mondialisé, séduit par le chant varié des voyelles et par l'effleurement des consonnes. Il souligne par exemple le pouvoir discret, presque paradoxal, du « e » que l'on dit muet, invention des Français, exclusif à la langue française. Il murmure doucement tout au long des phrases comme une mélodie souterraine. C'est ainsi que le français coule, quasiment sans interruption, alors que l'anglais marche ou court ou vole sur des accents marqués avec force. De Cambridge à Paris en flânant, les dialogues singuliers de Michael Edwards à l'ombre des langues.
Merci Jacques Munier pour ce journal des idées, puis à demain. Vendredi, 6h45 sur France Culture.
Les enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Des enjeux internationaux qui nous approchent, qui nous rapprochent peu à peu de nos chers collègues des matins qui sont en direct de Beyrouth pour évoquer la crise syrienne. C'est de cela dont il est question aujourd'hui et dès maintenant à travers le prisme de la relation Paris-Moscou qui se dégrade ces jours-ci. Bonjour Thierry Garcin.
Bonjour Émilie Chaudet et bonjour Philippe Moreau de Farge.
Bonjour Thierry Garcin.
Alors vous êtes chercheur à l'IFRI ce matin dans justement les matins de France Culture de 7h à 9h. Guillaume Erner et la rédaction en direct de Beyrouth, Alep face à la tragédie. Et cet après-midi, donc 18h20, 19h, du grain à moudre avec Hervé Gardette. Et le thème, Syrie, a-t-il une solution entre guillemets à la libanaise? On revient à notre propos, Philippe Moreau de Farge, les rapports entre la France et la Syrie, détérioration actuelle de la relation, notamment à cause de l'annulation de la visite privée du président Poutine en France, annulation par Moscou. Cela ne peut se comprendre que si l'on prend un peu de champ avec vous. Et grâce à vous, on va mettre en perspective quelques dossiers clés qui ont rapproché ou séparé les deux capitales. Mais on est frappé quand même par l'importance des différends, des litiges, des divergences. Alors dans la période récente, le premier dossier qui vient à l'esprit est celui de l'ex-Yougoslavie, bombardement de la Serbie par l'Alliance Atlantique en 99 dans l'affaire du Kosovo sans mandat de l'ONU. Deuxième grand différend, le dépassage de la Géorgie en 2008 au profit de la Russie Cilicie ici perdant deux provinces. Troisième différent, l'Alliance Atlantique qui attaque la Libye de Kadhafi en 2011. La France surtout s'intégrant dans une guerre civile alors que la résolution de l'ONU ne prescrivait qu'une zone d'interdiction aérienne et Moscou s'était contenté de s'abstenir à l'ONU. Quatrième conflit, l'Ukraine 2014, débouchant sur l'annexion manu militari de la Crimée par la Russie. Et cinquième, évidemment, c'est la Syrie et l'ensemble du Proche-Orient. On est, Philippe Moreau de Farge, on a l'impression quand même que ce sont des fractures quand même importantes entre en bilatéral.
Ah oui, et puis il y a un fil rouge derrière votre énumération, c'est-à-dire le sentiment qu'a la Russie de Poutine d'être humiliée et qu'il y a une sorte de revanche à prendre. Je dirais que la popularité de Poutine en Russie s'explique là, il y a le sentiment d'un nationalisme humilié et maltraité. Et je dirais, dans le cas de la France, c'est d'autant plus étonnant que la France a toujours eu des relations assez, avec des moments difficiles, mais des relations assez convenables avec la Russie, et la France a toujours su prendre en considération, je dirais, ce nationalisme russe. Là, il y a effectivement le sentiment que, au fond, la France fait primer une certaine solidarité occidentale au détriment, je dirais, de l'amitié traditionnelle avec la Russie. Mais on sent bien la volonté ce sentiment d'humiliation qui est central dans la démarche de Poutine.
Alors, il y a aussi une diagonale quand même dans cette affaire, si vous en êtes d'accord. C'est évidemment le droit international violé d'un côté par certains pays occidentaux, dont la France, il faut le rappeler, et violé également, alors d'une façon évidente et militaire, par la Russie.
Alors, vous avez tout à fait raison. Je dirais, qui a commencé? Et aux yeux de Vladimir Poutine, ce sont les Occidentaux qui ont commencé. C'est-à-dire lorsque les Occidentaux, et vous l'avez évoqué vous-même, à la fin des années 90, ont accepté l'indépendance du Kosovo. C'est-à-dire, ont accepté la sécession du Kosovo de la République serbe. Et là, il y avait une remise en cause des frontières. Et du coup, cette remise en cause des frontières par les Occidentaux, je dirais, aux yeux de Vladimir Poutine, justifie ce que vous avez évoqué, le dépeçage de la Géorgie et le retour de la Crimée au sein de la Russie.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quand même quelle place tient cette relation bilatérale Russie-France-France-Russie dans l'ensemble des grands dossiers européens. Et on ne peut pas manquer de citer évidemment le profond malaise que traverse l'Union européenne comme objet politique.
Oui, surtout dans le rapport France-Russie, il faut là aussi évoquer quelque chose. Aux yeux de la Russie d'aujourd'hui et aux yeux de la Russie de Vladimir Poutine, le rapport n'est pas tout à fait à égalité. Il paraît que dans un entretien entre Vladimir Poutine et Nicolas Sarkozy, Vladimir Poutine a mis en avant l'immensité de son pays. C'est vrai que cette Russie est le pays le plus immense du monde qui s'étire du cœur de l'Europe jusqu'au Pacifique et la petitesse de la taille de la France. Donc ça rend un rapport difficile. En outre, alors vous évoquez le cas de l'Union européenne, c'est vrai que face à la Russie, l'Union européenne est loin d'être soudée. Il y a une relative unité dans la méfiance à l'égard de la Russie, mais au fond, il y a un certain nombre de pays qui considèrent que le vrai danger ne vient pas de la Russie, mais le vrai danger vient du sud de la Méditerranée.
On a vu d'ailleurs, évidemment, lors de l'application ou de la volonté d'application de sanctions économiques contre la Russie dans l'affaire ukrainienne et de Crimée, on a vu des divergences entre d'un côté les Allemands et les Français, de l'autre les Pays-Baltes, les Polonais, etc. Et que là, effectivement, il y a une union désunie.
Exactement. Si vous voulez, là, il y a une véritable question, et au fond, qui rôde et qui n'est jamais vraiment réglée. Quel est le véritable ennemi pour l'Union européenne? Incontestablement, pour l'Union européenne, le véritable défi, c'est l'islamisme radical. Or, l'hostilité entre la Russie et l'Union européenne brouille cela en faisant de la Russie l'ennemi principal de l'Union européenne et de l'Occident. Là aussi, les comparaisons qui sont faites entre l'Union soviétique de la guerre froide et la Russie de Vladimir Poutine ne tiennent pas bien. Si vous voulez, l'Union soviétique de la guerre froide était un ensemble massif, fermé, obsédé par les armements, pouvant prétendre être l'égal des États-Unis. La Russie d'aujourd'hui n'est pas du tout dans cette position. Malgré tout, quelles que soient les nuances qu'on peut apporter à la démocratie russe, la Russie d'aujourd'hui est relativement ouverte. Il suffit de voir le nombre de Russes qu'il y a à Paris, à Londres ou dans les pays occidentaux. Donc les Russes circulent quand même en dehors de leur pays.
Vous êtes d'accord pour dire que la question du Proche-Orient, de la Syrie en particulier, mais qui est très liée à l'Irak, est une sorte de révélateur quand même grandeur nature et dans la tragédie de cette désorganisation mondiale.
Vladimir Poutine, je pense, veut marquer deux choses. Premièrement, dire le Moyen-Orient, ça me concerne. Et il veut ramener la Russie au Moyen-Orient où elle était à l'époque, notamment à l'époque soviétique. Ça, c'est la première raison. Je crois que la deuxième raison est aussi un peu, je dirais, idéologique au sens large. Vladimir Poutine veut dire non, le monde n'est pas fait de bisounours, le monde n'est pas fait de gentils démocrates contre des méchants dictateurs. Le monde, il est fait de réalités géopolitiques. Et d'une certaine manière, dans le soutien que la Russie appelle Bachar al-Assad, la Russie veut rappeler, d'une part, que tout n'est pas noir et blanc, et surtout marquer, je dirais, les velléités de l'Occident. Au fond, Vladimir Poutine dit à l'Occident, vous êtes là à donner des leçons de morale, mais dès qu'il s'agit de faire quelque chose, vous n'êtes pas présent au rendez-vous.
Alors, il y a aussi une question, évidemment, qui est importante, juste d'un mot, Philippe Andoffard, je rappelle, vous êtes chercheur à l'IFRI, c'est la question des relations transatlantiques, c'est-à-dire on a une Europe et des Unis et une Amérique des États-Unis, justement, peu dynamique.
Ah ben attendez, c'est pas ça, je vais même dire, les États-Unis sont sur le repli, et n'oubliez pas la dernière déclaration de Barack Obama sur la Syrie est une, ce qui se passe en Syrie, c'est une guerre civile, c'est-à-dire que les États-Unis disent réclamant qu'ils se désintéressent de toutes ces questions-là. Donc, l'Union européenne doit réfléchir comment elle doit établir des rapports avec la Russie, et est-ce que le non-dialogue avec la Russie est la bonne voie? Ce n'est pas sûr d'être certain, il est clair. D'ailleurs, pour évoquer l'événement qui a annulé Vladimir Poutine, le bâtiment, le centre culturel, cette église qui est bâtie près du pont de l'Allemagne, est une réalisation magnifique. C'est une très belle réalisation et qui, justement, honore l'amitié franco-russe.
Est-ce que, finalement, le président Hollande a eu raison d'agir comme il l'a fait dans ce projet de visite privée de Vladimir Poutine? Vous n'êtes pas aux affaires, mais qu'est-ce que vous auriez fait?
Je dirais que ça mérite débat. En tout état de cause, lorsqu'on a un partenaire aussi difficile que Vladimir Poutine, il faut toujours maintenir le dialogue. Si vous voulez, l'un des principes de base dans la diplomatie pour limiter le conflit, pour empêcher que le conflit ne dégénère, c'est toujours continuer à parler, malgré tout, quels que soient les dires de l'adversaire, et de montrer que d'essayer de mieux le comprendre.
Vous connaissez évidemment le contre-argument, c'est du vichisme, c'est faire un aveu de faiblesse, et c'est involontairement, comment pourrait-on dire, accepter les diktats de la Russie.
Non, ce n'est pas le dialogue qui est la faiblesse, c'est la position que l'on présente. Vous savez, pour parler, vous évoquez, on va évoquer les efforts de Munich, c'est qu'à Munich, Hitler savait que Daladier et Chamberlain étaient fondamentalement faibles, donc il sentait cette faiblesse. Si Daladier et Chamberlain étaient venus à Munich avec une idée de force et de résister à Hitler, Hitler l'aurait très bien senti. Vous savez, ces hommes-là, ces dictateurs sont très intelligents et notamment comprennent très bien le rapport de force.
Voilà, donc franceculture.fr, encore une fois, pour écouter l'émission, la télécharger, donc, et suite de cette actualité, on va dire, syrienne, syro-irakienne, de Beyrouth, avec donc Guillaume Erner de 7h à 9h et Hervé Gardette de 18h20 à 19h, respectivement, encore une fois, franceculture.fr.
Merci à vous Thierry Garcin, et à demain pour des enjeux internationaux consacrés, cette fois à l'Algérie, en partenariat avec la revue Questions internationales. Il sera question des grandes incertitudes de la situation économique dans le pays, avec la doctorante Johanna Gauthier, également coéditrice du dossier. 6h55 sur France Culture. Titre du groupe libanais qui fait fureur depuis 2-3 ans, non seulement au Liban, mais un peu partout dans le monde, avec des salles de concert pleines à craquer. Ce sont les 5 garçons de Mashrou Leila, un groupe libanais. Donc ici, c'est un titre qui figure sur leur avant-dernier album, Razouk, avec une participation à la musique d'Éric Truffat. Bach, c'est la mer. Il est question d'un frère emporté par les vagues, un frère que la mer ne rendra jamais, un frère que le silence et la torpeur des marins aura laissé sombrer. Drame incompréhensible de la disparition. de ce que l'on voit disparaître sans pouvoir l'empêcher. On peut aussi penser à l'écoute de cette chanson, au drame migratoire qui se joue chaque jour dans cette mer. C'est un peu tout ce que Guillaume Erner et ses invités vont évoquer, puisqu'il est question de la crise syrienne et de la tragédie en cours à Alep. Dans ces matins de France Culture, émission spéciale tout de suite en direct depuis l'Institut français de Beyrouth. Un grand merci à l'équipe des Petits Matins, François Angelier, Jacques Munier, Thierry Garcin, Toufik Hakem, Midia Portis-Guérin à la réalisation, accompagné ce matin à la prise de son de Pierre Faucillon.
France Culture présente « Voyage à travers le cinéma français », un documentaire de Bertrand Tavernier. Imaginez un voyage. Un voyage avec les plus grands acteurs. Un voyage avec les plus grands réalisateurs.
Gabin est indissociable de Renoir, de Duvivier.
Un voyage à travers 50 ans de cinéma français. Voyage à travers le cinéma français de Bertrand Tavernier, actuellement au cinéma. Un film France Culture.
6h57, il est plus que temps de retrouver Guillaume Erner et son humeur du jour.
L'humeur du matin, Guillaume Erner.
Je suis assez curieuse, Guillaume, de savoir comment vous la percevez, vous, aujourd'hui, Beyrouth. À quoi ressemble Beyrouth en 2016 ?
Eh bien, bonjour Émilie, bonjour à tous. Beyrouth, c'est une ville double et c'est cela qui est étonnant, car dans la plupart des villes du monde entier, il y a une mode. Et ici, à Beyrouth, eh bien, il y en a deux. Alors, la première mode, c'est du noir, hein. Du noir très envahissant, forte dominante, total look, porté avec des rangers et un fusil mitrailleur. C'est la première mode triomphante à Beyrouth, c'est la mode du Hezbollah. Les défilés du Hezbollah sont assez nombreux depuis le mi-temps des années 2000, même si le dress code, la manière de s'habiller, les codes couleurs ne changent pas. D'ailleurs, en 2007, quand les hommes du Hezbollah ont envahi chaque carrefour de Beyrouth, lorsqu'on leur demandait pourquoi ils étaient là, ils répondaient en souriant « pour une excursion ». Et c'est cela qui était suspect, ils souriaient. Parce que le Hezbollah a beau être sur la liste des organisations terroristes, de là à sourire pendant un défilé, vous avez déjà vu un mannequin sourire, vous, Émilie. D'ailleurs, l'autre partie de la ville se garderait bien de sourire pendant un défilé. Elle a d'autres uniformes, au lieu du noir Hezbollah, le noir Gucci ou à la limite le noir Prada. Mais il faut bien le dire quand même, c'est une année Gucci. Et c'est cela qui constitue Beyrouth, l'association improbable entre les fous de Dieu, nom du Hezbollah, et les fous de fringues. Cette année, la mode est donc Gucci et blazer. Ils se portent en tailleur pantalon, en total look noir. Le mieux, c'est quand même à même la peau, sans rien dessous, sauf éventuellement un petit top. Des nuées de blazer envahissent le soir les rues de Beyrouth et ses boulevards, non pas Silicon Valley, mais Silicon Alley, avec des filles plus à la mode qu'à Paris ou à Tel Aviv, et des garçons qui ressemblent au chalala de Tel Aviv. T-shirt plus moulant, tu craques. Filles et garçons s'en voudraient d'ailleurs de rentrer chez eux avant les premiers cris du muezzin vers 4 heures du matin. Il y a deux modes, donc deux modes bien distinctes, et la seconde pourrait être dérisoire si le magasin Gucci de Beyrouth n'était pas le premier à droite en sortant de Raqqa, le premier à droite en sortant de l'État islamique, parce que la guerre est là. Il suffit d'une heure de voiture pour apercevoir les combats à la frontière syrienne, parce que les réfugiés sont là, le Liban en accueille proportionnellement plus qu'aucun autre pays au monde. Et dans aucun autre pays au monde, les victimes sont aussi proches des fashion victimes. Et c'est donc une matinale exceptionnelle en direct de Beyrouth que nous vous proposons, en direct de l'Institut français de Beyrouth, dans une ville-monde, l'une des rares capitales du monde arabe qui fasse figure de havre de paix et de tolérance, autant dire qu'on ne l'aurait pas imaginé il y a peu de temps, mais aussi capitale la plus proche de l'enfer syrien, connectée à la Syrie, car ici les réfugiés ne sont pas 1000 ou 10 000, mais 1,5 million pour un pays de 4,5 millions d'habitants. Le conflit syrien vu depuis Beyrouth, c'est toute cette matinée de 7h à 9h, c'est aujourd'hui dans les matins.